Bonne nuit, les petits. Fête de beaux rêves. Tonton veille sur vous.
J'ai souvent rêvé lorsque j'étais enfant. C'est un taxi collectif et il y a une jeune femme sur le siège passager. Le taxi doit me déposer à une station de métro, mais quand nous arrivons devant, il continue à rouler, prétextant qu'il ne peut pas s'arrêter là. Nous roulons encore bien 1 kilomètre et nous arrivons à la mer. Le taxi rentre dans l'eau en me disant que ce sera plus facile pour lui de se garer ici. On voit des nageoires sortir de l'eau et la fille demande si ce ne serait pas par hasard un dauphin. Et le dauphin sort son bec ou son museau, et nous sommes sûrs alors que c'en est un. Quand je demande au taxi comment je vais rentrer au métro, ne connaissant pas le chemin, il me répond « Eh bien, prenez un autre taxi, moi je dois raccompagner mademoiselle. »
Rêver des dauphins signifie que la période que vous allez vivre s'annonce merveilleuse. De quoi retrouver la paix et la confiance en vous. Un dauphin est une projection de votre subconscience ayant par but de vous encourager à utiliser votre esprit à sa capacité pour vous diriger vers les sommets de la vie.
Alors j'ai un rêve que je fais vraiment de manière assez récurrente, mais qui me dérange. C'est pas un rêve agréable. Alors c'est je rêve que mes deux mâchoires ne sont plus compatibles. Donc je ne peux plus fermer la bouche.
Mais moi ça m'arrive ça et je suis même pas. Enfin, je pense que je rêve pas, mais. Tu vois, à chaque fois, ils ne coïncident pas trop. Mais ce n'est pas un rêve.
Non, moi, c'est vraiment un rêve. C'est vraiment un rêve. Et ça, c'est tellement plus compatible que je suis obligée de retirer des dents de mes mâchoires pour pouvoir continuer à parler et à vivre, en fait. En fait, sinon, ça m'empêche de respirer, de
mais
tout, quoi.
Mais ça fait comment, ton mâchoire?
Bah, ça... C'est décalé, quoi. Je peux plus... Les deux mâchoires, c'est... Ils sont plus coordonnées.
Mais tu fais comment pour retirer les dents?
Bah, je les arrache, quoi. Je les arrache et puis je les crache.
Et tu saignes?
Non. C'est hyper propre, comme rêve.
Mais ça fait mal, quand même.
Et t'es où? T'es chez toi?
Non, je suis nulle part. C'est nulle part, c'est un état étrange qui se répète d'incompatibilité de mâchoire, quoi.
Mais c'est angoissant, c'est hyper angoissant.
Hyper angoissant. Ah ouais, c'est hyper angoissant. Ouais.
Rêver des bouches traduites. Un moment important où des décisions sont à prendre et où toute dualité excessive ne vous apporterait que des difficultés. La puissance créatrice est à votre portée, à condition de savoir unir vos contraires.
Je suis ligoté à une chaise à bascule sur un terrain de foot, absolument frustré de ne pas pouvoir atteindre la balle. J'ai rêvé qu'on m'offrait 50 paires de chaussettes pour Noël. J'ai rêvé qu'une armée de femmes faisait un exercice de mise en situation. On fait boire beaucoup d'eau à quelqu'un, puis on l'empêche d'aller aux toilettes pendant 1 heure. Il y a peut-être 50 femmes armées de lances qui protègent les toilettes publiques, et c'est moi qui en suis la victime. Je crois qu'il est à un moment question d'un coup de tête à un chat assez gros. Je suis une sorte de grand professeur libéral pendant la Seconde Guerre mondiale. J'enseigne dans un établissement à moitié vide. En plein milieu du cours, la Gestapo vient pour m'arrêter. J'arrive, je ne sais comment, à leur échapper en les semant dans les couloirs. Quand j'arrive en bas du bâtiment, je tombe sur Staline en personne, qui lui aussi commence à me poursuivre. Il est trop gros et trop lent, je n'ai aucun mal à le semer.
Si le rêveur a eu un père autoritaire, un dictateur des pays de l'Est, Hitler, Staline, peut apparaître dans un de ses rêves comme la représentation de ses rapports.
Y a un rêve que je fais très souvent, mais jamais exactement de la même façon. Je rêve très régulièrement que je suis enceinte ou que j'ai des enfants. Ça se présente dans chacun des rêves de façon différente. Je me souviens d'une fois où j'ai rêvé que j'étais enceinte et c'était un peu bizarre parce qu'en fait j'étais dans la salle de bain de la maison dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai habité jusqu'à mes 10 ans, avec mon grand frère. Et en fait, je me regardais dans la glace. Et dans la glace, je remarquais qu'en fait, que mon ventre était gonflé, que j'avais un ventre de femme enceinte. Et donc, je touchais mon ventre, je le regardais. Et puis, mon frère se met à me regarder aussi. Il regarde dans la glace. Et puis, il me dit, mais t'es enceinte? Et puis, moi, du coup, je regarde mon ventre, je le touche. Et puis, je lui dis, bah ouais, non, mais ouais, je crois, un peu affolée. Et puis, je lui dis, mais s'il te plaît, tu le dis pas aux parents. paniquée de réaliser, en fait, en me voyant dans la glace, que je suis enceinte. Et ce rêve lié à la maternité, parfois, c'est des enfants que j'ai déjà, qui arrivent d'un coup, mais je sais que c'est les miens. Je me souviens d'un rêve où je rentrais chez moi et il y avait des jumeaux posés sur mon lit. Et j'arrivais chez moi et, en fait, ce qui était étrange dans mon rêve, c'est qu'en les voyant, tout de suite, je savais qu'ils étaient à moi. Et je me mettais à m'en occuper et ils avaient déjà des prénoms. Alors que 30 secondes avant, en arrivant chez moi, je n'avais pas d'enfant. Et là, tout d'un coup, j'avais ces jumeaux sur mon lit et c'était les miens. Et en même temps, c'est des rêves qui sont angoissants, en fait. Et sur le moment, quand je le vis, je sais que c'est comme ça. Mais ça me stresse et j'en ai pas envie. Voilà. That he could stay, love him so, but now it's getting late. He'll be waiting just for you.
Assis dans un décor qui ressemble au derrière de la station de métro Cours Saint-Émilion. Je suis en face d'une sorte de lac rectangulaire en pleine ville. J'avais apparemment l'habitude de marcher sur l'eau, mais cette fois, je passe sur le côté. En me promenant, je me fais agripper la jambe par un crocodile. J'ai le temps de m'accrocher à un muret pour ne pas me faire dévorer. Étrangement, la lutte est plutôt égale. Il n'arrive pas à me faire lâcher, ni moi à m'extraire de ses crocs. Je n'ai pas mal. Je crie à l'aide à des gens en face et je ne sais pas ce qui se passe, mais le croco me lâche. J'en profite pour monter sur le muret et saute de joie et de rage d'avoir gagné. Je ne l'ai pas remarqué, mais le croco a grimpé lui aussi et sa bouche énorme s'abat sur moi sans que j'aie le temps de réagir.
Rêver d'être mordu par un crocodile représente des déboires dans votre vie professionnelle ou des déceptions dans votre vie amoureuse. Un crocodile vu en rêve peut symboliser à la fois votre conscience et votre subconscience, ou bien votre côté émotionnel et votre côté rationnel réunis.
Alors j'ai rêvé que j'entretenais une relation assez ambiguë avec Emmanuel Macron. On était un peu en bise-bise. Et à un moment, il prenait une pelle, il commençait à creuser un trou dans le sol et il me demandait de me mettre dedans. Et j'avais pas très envie.
J'ai garé ma très grosse moto contre un mur bas en pierre sèche qui longe une plage. Quand je sors de l'eau, avec une fille dont j'ai oublié le visage, ma moto a été volée et remplacée par un VTT Rock Rider et une toute petite mobylette. Je monte sur la mobylette, mes genoux touchent presque le sol tant elle est basse. Avec la fille, nous décidons de partir à la recherche des voleurs. Elle est en scooter et au bout de quelques mètres, je réalise que j'irai plus vite avec le VTT. Je pars donc le rechercher, et quand j'arrive près du mur de pierre, débarquent trois motards grands et épais. Deux des motards tiennent d'une main chacun une autre moto, la mienne, sur laquelle gît un homme à moitié inconscient. Les motards ont des regards moqueurs et il est évident qu'ils sont revenus pour me provoquer. Il est même possible qu'ils aient observé la scène de loin depuis le début. Je suis furieux et prêt à en découdre, ne tenant absolument pas compte de leur supériorité numérique et physique. Je me jette sur l'un d'eux, mais mes coups peinent à le toucher. Je crois même qu'il arbore un petit sourire en coin. Les deux autres se moquent ouvertement de moi. L'homme évanoui se relève et je sais qu'il va prendre ma défense, qu'il a sans doute déjà prise par le passé et que c'est ce qui lui a valu de se retrouver dans cet état. Je me demande simplement quel genre d'aide il va bien pouvoir m'apporter, amoché comme il l'est.
Je marchais dans la rue, dans une ville, et c'était la nuit, mais c'était l'été, et il y avait beaucoup de gens dans la rue, de gens qui se baladaient, qui discutaient, des groupes de gens. Et moi, j'étais seule, et je marchais dans la rue. Et c'était un soir de pleine lune, et la lune était vraiment très, très, très grosse, très lumineuse. Et au bout d'un moment, je vois que la lune, en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de bras géant qui sortait de la lune, comme si c'était son bras. Mais c'était pas un bras humain, c'était comme un long morceau de lune, comme ça, hyper longiligne, qui partait de la lune dans le ciel et qui arrivait jusqu'à la terre, jusque dans la rue où j'étais. Et c'était de la même couleur que la lune, d'une matière lune, je sais pas. Et la lune, en fait, elle jouait avec les humains et elle leur faisait comme des blagues où elle leur tapait sur le dos, elle les effleurait, elle les touchait. Et elle était là et c'était très bienveillant, c'était comme si elle jouait avec nous. Et moi aussi, elle m'a touchée et il y avait comme une espèce de complicité entre les gens et la lune qui, avec son long bras, arrivait jusqu'à la terre, jusqu'aux humains, et qui les touchait comme ça, dans la nuit.
Mauvais rêve où, dans le métro parisien, des dizaines de télés retransmettent les mouvements des usagers. Certains plans sont presque artistiques. On voit des ralentis sur des torsions de chevilles, sur des levées de talons. Je suis abasourdi par les nouvelles orientations prises par la RATP. Au bout d'un moment, un compte à rebours se lance sur les écrans, entrecoupé de plans fixes sur des visages et d'images de militaires prêts à faire feu. Quand tombe le zéro, une trappe s'ouvre et en sortent des militaires qui canardent les usagers sans viser. Ils tirent de partout à l'automatique et je réalise que tout est retransmis sur les écrans. Des grilles tombent une par une sur les sorties des quais, piégeant les plus lents. J'arrive à me faufiler dans un couloir. Je tombe sur un escalator bloqué par des panneaux de travaux. Et heureusement, car d'en haut, on me tire dessus et la ferraille me sert de protection. L'homme qui me tire dessus, je ne sais comment je l'apprends, est le nouveau shérif. Il est gros, a une moustache blanche, des cheveux filasses et un sourire américain. Quelqu'un dit son nom, ou alors il est affiché quelque part. Je ne m'en souviens pas, mais il se pourrait que ce soit Fabrice. Je fais le mort pour qu'il ne m'achève pas, mais il ne se soucie en fait plus de moi. Il donne à la télé une justification à tout ce carnage, mais je ne la comprends pas bien, quelque chose en rapport avec la surpopulation peut-être. À un moment, je crois qu'il est question d'une bagarre avec des chiens.
Un rêve où j'ai des chaussures immenses. immenses, des chaussures immenses, hyper lourdes, et je peux pas marcher avec. Ça m'empêche d'avancer, quoi. Des trucs, mais énormes, que je vois même pas le bout de la chaussure.
Je suis dans un pays d'Amérique du Sud, je ne sais plus lequel, mais je dois être dans les Andes. Je marche seul dans une vallée pendant un bon moment, jusqu'à ce que je rencontre deux hommes costauds avec qui je me lie d'amitié. Nous continuons la route ensemble et ils me couvrent de conseils. Visiblement, cette route est dangereuse car fréquentée par des déséquilibrés. Ils me conseillent notamment de me méfier des petits mecs secs qui, selon eux, te suivent jusqu'à ce que tu t'arrêtes quelque part pour pisser, puis en profitent pour se masturber derrière toi. Un moment, plus tard, nous tombons justement sur un type qui semble louche. Il demande de l'argent en plein milieu de la vallée. Il a l'air très nerveux et il a le visage d'un mec qui a fait de la boxe avec moi, plus âgé, aux cheveux plus longs. L'un des gars qui m'accompagne va lui parler, essayant de le raisonner. L'autre s'en va pisser. Je ne sais pas s'il en a vraiment envie ou si c'est une provocation. Plus tard, et sans que je comprenne comment, le type louche se retrouve en face de moi. Il sort son sexe et dit « Tu vois que c'est pas pour me branler ?» Sur ce, il se met à me pisser dessus. Le temps de réagir, je le mets facilement à terre avec un enchaînement gauche-droite. Je suis hors de moi et me mets à le frapper au visage alors qu'il est à terre et continue à ricaner. Je ne le frappe pas longtemps, car je ne sais pour quelle raison, je décide ensuite de frapper dans la terre d'un pot de fleurs qui se trouvait juste à côté de lui. Ensuite, je me mets les doigts au fond de la gorge pour essayer de lui vomir dessus.
Un rêve dans lequel vous vous faites uriner dessus dans les Andes représente un sentiment de puissance que vous éprouvez dans la réalité. Vous êtes maître de votre destin. You're very welcome.
Times I told you it's never been.
J'ai très mal à la tête et rentre dans une pharmacie pour acheter du Dafalgan. On refuse de m'en vendre. Je reviens avec un katana. On refuse de m'en vendre. Je reviens avec un katana. La pharmacienne refuse à nouveau et je l'agresse avec mon sabre. Il semble que je sois touché aussi, mais je ne sais pas de quoi elle s'est servie.
Les sabres apparus en rêve symbolisent l'honneur, l'esprit, l'intelligence et ce qui en découle, c'est-à-dire la communication entre des humains, sous toutes ses formes, la langue, la parole, l'écriture. Les sabres, dans les symboliques oniriques, peut également, de par sa forme phallique, représenter le pouvoir masculin. Rêver de manière les sabres signifie que vous cherchez à vous élever au-dessus de votre condition actuelle. Il n'y a aucune interprétation relative à la présence d'un pharmacien.
What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends, and his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? That hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. And I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. But
There's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife in some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I'll bet he spent a little time in jail. I heard he was up on the roof last night signaling with a flashlight. And what's that tune he's always whistling? What's he building in there? What's he building in there? We have a right to know.
Je rêve très régulièrement, de façon vraiment très récurrente, je pense à peu près une fois par semaine, que je perds mes dents. Et c'est un rêve qui est horrible parce que la sensation physique est vraiment exacte. Et là, en en parlant, je ressens la sensation que j'ai pendant mon rêve. Et c'est très réaliste. Et en fait, à chaque fois, je sens en fait que j'ai une de mes dents qui commence à bouger. Et du coup, avec ma langue, je touche ma dent pour voir ce qui se passe. Et donc, je la touche et en fait, en la faisant bouger, je la fais tomber. Et donc, je continue à toucher avec ma langue au même endroit. Et en touchant avec ma langue, je commence à faire bouger les dents qui sont à côté. Et en fait, comme ça, au fur et à mesure, y a toutes mes dents qui tombent. Et je fais tomber toutes mes dents. Et c'est vraiment une sensation horrible. Je ressens ce truc de mes dents qui tombent les unes après les autres. Et comme c'est un rêve que je fais très souvent, je suis déjà allée regarder ce que ça signifiait. Et apparemment, le fait de rêver de perdre ses dents, c'est un truc qui est lié à l'âge, en fait. Parce que les dents, c'est quelque chose qui est lié à l'enfance, au moment où on perd ses dents de lait. Donc, c'est un souvenir d'enfance. Et c'est aussi lié à la vieillesse et à une espèce de dégénérescence du corps. Et donc apparemment le fait de rêver de perdre ses dents, c'est lié à une peur de grandir.
Je suis dans un bâtiment universitaire, en retard pour un cours. Je me trompe plusieurs fois de salle. En fait, il semble qu'aucune ne soit la bonne. Dans certaines salles, un autre cours a lieu. Dans l'une d'elles, c'est une enfant pouponne, âgée de ce qui ne semble pas être plus d'une dizaine d'années, qui semble donner cours à d'autres enfants. Je vais plusieurs fois aux toilettes, à des étages différents. Il me semble que c'est une matière que j'aurais du mal à valider, à laquelle je n'ai pas beaucoup été. Dans les couloirs, il y a beaucoup de putois, plus petits que dans la réalité. Plusieurs enfants essayent de les attraper, mais la plupart leur glissent entre les doigts. Il y a aussi des pingouins minuscules qui font la même chose. Je trouve ça répugnant. À un moment, je croise une femme ayant le même visage que Gérard Depardieu dans un couloir, attendant pour aller à une conférence. Je la bouscule car je suis en train de courir pour aller aux toilettes, mais elle me sourit. Plus tard, je croise mon chat. Il me semble que je le caresse avec le pied.
Un putois, vous en rêve, symbolise une personne socialement inadaptée qui sème les troubles dans votre entourage. Rêver de Gérard Depardieu symbolise votre incapacité à gérer vos émotions. Vous traversez une période tourmentée. Vos nerfs sont à fleur de peau.
You see it coming. routes de campagne qui sillonnent à travers des collines. Et la visibilité, elle est excellente et je vois vraiment très 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 loin sur la route. Et donc je marche toute seule, à pied, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien à part la route vraiment au milieu des collines. Et j'avance et au bout d'un moment j'aperçois au loin, vraiment loin, 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 sur la route, une silhouette. Et donc je m'attends à au bout d'un moment croiser cette silhouette et je continue d'avancer et la silhouette qui avance dans ma direction se rapproche et on se rapproche jusqu'à ce que la personne se trouve à peut-être une centaine de mètres de moi et là je me rends compte que c'est un enfant, un tout petit enfant et je continue d'avancer et l'enfant continue d'avancer. Et quand on est à une dizaine de mètres l'un de l'autre, je distingue mieux que c'est une toute petite fille qui doit avoir à peine 4 ans et qui marche toute seule. Et alors je m'approche encore et elle s'approche encore. Et quand j'arrive à sa hauteur, je me rends compte qu'en fait cette petite fille c'est moi. C'est moi quand j'avais 4 ans et je suis hyper émue et je vois que le moi enfant est aussi hyper émue et on se regarde longtemps seul sur la route et au bout d'un moment je m'agenouille pour que mon visage soit à la hauteur du sien et on continue de se regarder et le moi adulte prend le moi enfant dans ses bras et on se serre l'une et l'autre dans les bras pendant un long moment.
Je prends un cours de théâtre et on joue une pièce dans laquelle j'ai le rôle de Colline, un rôle pas très parlant où souvent mon téléphone doit sonner. De répétition en répétition, les gens qui jouent les autres rôles changent. Moi, j'ai toujours le rôle de Colline. C'est la répétition générale qui se finit en beuverie dans une piscine. Nous avons le soir même une représentation à New York, sauf que New York est un nom de code pour une autre ville, mais je ne suis pas sûre de laquelle. On doit prendre l'avion, mais je dois d'abord repasser chez moi. J'ai peur de ne pas me rappeler mon texte, mais je suis contente. Je n'arrête pas de quitter et de regagner la piscine parce que j'ai oublié des affaires, au moins 4 fois. Quand je reviens pour la dernière fois, c'est devenu une piscine pour handicapés et grands brûlés. Il y a des gens avec des moignons, des bandages et des plâtres. Un mec me parle dans ma tête de la cause des handicapés alors que j'essaye d'en éviter qui vont me percuter sur le bord de la piscine, pris de tressaillements incontrôlables et qui titubent. Je réponds au mec dans ma tête qu'on m'a déjà sensibilisé à la cause des handicapés en cours d'art plastique au lycée. Petit à petit, il forme une marée humaine sur le sol, s'agrippe à mes jambes quand j'essaye de marcher dans les interstices. Je suis dégoûtée, mais je continue. Je trouve refuge dans un coin de tapis humain où il y a des grandes poupées peluches grandeur nature qui représentent mes ex. Je dis à la voix off du type dans ma tête « Ça, c'est mon pire cauchemar ». Plus tard, j'apprends qu'un de mes ex est devenu gay, influencé ou inspiré par une légende antique, légende transmise et matérialisée par un sarcophage représentant un homme allongé avec un vrai bébé mort dans les bras. Le décor change et je suis dans un café où j'attends ma mère. Je veux lui raconter que mon ex est devenu gay et que ça me rend triste, mais au moment où je vais lui dire, je me rappelle que j'ai une représentation le soir même et qu'il est déjà 19h30, que je ne sais pas quel avion je dois prendre pour aller dans quelle ville. Je cherche dans mes papiers le numéro d'un professeur ou d'un camarade, mais tout ce que je trouve, c'est une circulaire avec marqué « Au secours » et un numéro de téléphone. Je me dis que « Au secours », c'est trop pour ma situation, qui ne nécessite pas de secours, et j'abandonne. Dans le restaurant, il y a des amis de mes parents qui me font peur parce que je me souviens de leur visage mais pas de leur nom. Mon père arrive et m'annonce qu'une journaliste qu'il appréciait est morte dans les pays de l'Est 3 jours plus tôt. Il est très triste. Nous tentons de rentrer à la maison par la rue de Belleville, puis par la rue du Borrego, mais à une des fenêtres d'un immeuble au rez-de-chaussée, il y a Céline qui nous fait des grands signes et qui crie « N'allez pas là-bas, ils font des salades avec des cadavres !» Cette phrase nous interpelle et nous fait faire demi-tour au moment où on réalise qu'on était pratiquement en train de marcher sur un genre d'installation où des gens inanimés et rigides sont délicatement parsemés entre des couvertures et des tapis de gym verts qui leur font comme un lit de salade. Ça me terrifie. On rentre à la maison par la rue de Pixérécourt. J'écoute mes messages, j'en ai deux, qui me disent que le spectacle est à Paris, que ça va être super, qu'on se retrouve là-bas. En arrivant chez moi, c'est un décor de maison sans mur, juste avec les meubles. Je tente de raconter mes problèmes à ma famille, mais personne ne semble m'écouter. Je leur demande pourquoi ils ne m'écoutent pas. Tout le monde continue de s'agiter, de remplir le lave-vaisselle sans un mot. Puis Rebecca parle. Parce que nous n'avons pas la même ligne morale. Puis, voix indéterminée, « Toi, tu n'iras pas très loin. » Tout le monde agit comme si c'était pas grave, alors que c'est le plus gros drame de ma vie. Je me tape une crise d'enfant avec des larmes coincées dans la gorge. Je me mets sous un bureau en bois que j'essaye de secouer. Je me sens minuscule et je ressens l'injustice d'être condamnée à rater ma vie. Je renverse une bouteille de vinaigre sur la table basse du salon parce que la colère sort toute seule par mes mains. Tout le monde s'énerve et je capitule. Je fais semblant d'être calme parce que je ne veux pas tout perdre de manière irréversible.
Le rêve le plus troublant que j'ai fait, c'est que j'ai rêvé que je savais ce qui se passait avant ma naissance. Et dans mon rêve, du coup, je me suis dit, putain, mais ça, il faut absolument que tu t'en rappelles au réveil. Tu vois, c'est vraiment le plus gros mystère. C'est ce qui se passe avant la naissance et ce qui se passe après la mort. Et au moment où je me suis réveillé, j'ai tout oublié.